En début d'année, il est classique de prendre de bonnes décisions. Parmi les bonnes décisions que nous pouvons prendre, je pense, c'est celle de se soumettre à la parole de Dieu, d'obéir en toute chose à la parole de Dieu. Et bon, c'est une chose qu'on doit se rappeler en permanence, et moi-même, je dois me la rappeler, bien sûr. Je vous propose de lire le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 18, ou plutôt à partir du verset 17. Du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. J'avais déjà commenté les premiers versets, mais après, on fera la suite ensemble. Dans ma Bible, ce passage est intitulé « La vie par l'Esprit ». Là, c'est pas dans la Bible, hein, je veux dire, c'est une note, un titre qu'ont donné les traducteurs. Donc, Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez Christ, le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête, de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Alors, vous l'avez noté au verset 17, Paul a écrit à ses correspondants des églises de la province d'Asie, dont Éphèse, à qui normalement cette lettre est destinée, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et on a vu toute une série d'exhortations précises. Ne pas s'enivrer de vin, mais être rempli de l'Esprit. S'entretenir au quotidien par des chants et des psaumes de louange. Remercier le Seigneur pour toutes choses. Et ces exhortations trouvent en quelque sorte leur point d'orgue dans le verset 21. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Cette soumission des uns aux autres a donc pour cause la révérence ou la crainte due à Christ, et pour moteur la plénitude de l'Esprit à laquelle Paul nous appelle. Alors donc maintenant, Paul va détailler dans la fin de ce chapitre 5 et aussi le début du chapitre 6, qu'on ne lira pas aujourd'hui, ça serait trop long, il va détailler les domaines familiaux et sociaux où cette soumission des uns aux autres est requise. Dans la relation mari-femme, dans la relation parent-enfant et dans la relation maître-esclave. Nous allons voir que ces relations au sein du nouveau peuple de Dieu sont révolutionnaire par rapport à la société ambiante de l'époque, et elle contraste également sur bien des points avec les conceptions de notre époque. Ces questions étant pour certaines délicates et sujettes à polémique, il nous faut préciser certains principes. D'abord, le principe de l'inspiration divine des Écritures, c'est-à-dire de toute la Bible. Les chrétiens évangéliques dont nous sommes affirment ce dogme de l'inspiration plénière des Écritures. Il s'appuie principalement sur deux passages clés. L'un est de Paul, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Cette dernière mention, mener une vie conforme à ce qui est juste, est précisément ce dont Paul parle dans ce chapitre. Également l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 21, il écrit « En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie, une parole de Dieu, a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc voyez, ces deux passages, et ce ne sont pas les seuls, sont vraiment ceux qui fondent de façon la plus claire le dogme de l'inspiration totale des Écritures que nous avons en main. Il y a bien d'autres passages. Par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament qui disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Ils étaient convaincus que la parole qu'ils transmettaient était celle de l'Éternel. Vient ensuite la question de l'interprétation de ces Écritures inspirées. Ce que les théologiens appellent les principes, un nom compliqué, d'herméneutique, qui veut dire simplement interprétation. Comme l'écrit l'apologète anglais C.S. Lewis, vous savez, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia, dont il était tiré des films, il écrit « Nous savons que les Écritures sont infaillibles, mais notre interprétation ne l'est pas. Il nous faudra donc examiner avec soin, en fonction de ces règles d'herméneutique, ce qui, particulièrement dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, est valable à toutes les époques, de ce qui est manifestement marqué par le contexte culturel aussi de l'époque de rédaction de ce texte. Mais revenons donc à notre texte. Paul vient donc d'établir le principe de soumission des uns aux autres dans le nouveau peuple de Dieu dont parle le verset 21. « Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Alors il est utile de bien analyser le sens du verbe traduit dans nos versions par « se soumettre ». Le verbe qu'utilise Paul, c'est « hypotasso ». C'est un verbe qui est construit sur la racine du mot grec « taxis », qui signifie « mise en ordre »,« arrangement », »,« place assignée à chacun ». Et du préfixe « hypo », qui signifie « sous ». La traduction la plus littérale en français, c'est donc « subordonné ». Et Paul utilise ce qu'on appelle la voix moyenne en grec pour ce mot. C'est donc « se subordonner hein, ». Une voix réfléchie, « se subordonner ». En gros, il dit « subordonnez-vous les uns aux autres ». Pourquoi Paul parle-t-il de respecter un certain ordre? Ce que l'on entend dans le verbe hypotasso. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul traite dans le chapitre 14 particulièrement de l'ordre qui doit régner dans les cultes chrétiens. Il écrit au verset 33 « Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Logiquement, on aurait attendu « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. » Non, il a écrit « mais de paix ». Dieu n'aime pas le désordre, mais ce qu'il veut pour son peuple, c'est qu'il soit paisible de sa paix. Si Dieu impose un certain ordre à son peuple, ce n'est pas par une volonté despotique, c'est pour la paix qu'il veut donner à son nouveau peuple. Paix que Paul qualifie en Philippiens 4, verset 7, la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence. Alors, dans ce passage, Paul demande au nouveau peuple de Dieu de respecter le principe de subordination, littéralement, dans la crainte de Christ. Et au verset 22, il écrit « Vous, femmes, en particulier, subordonnez-vous, soumettez-vous dans nos traductions, hein, mais ça serait mieux de dire subordonnez-vous, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. » Notons que Paul précise bien « chacune à son propre mari ». Les femmes n'ont pas à se subordonner à tous les hommes de l'Église, mais seulement à leur mari. Pour les femmes non mariées, elles doivent, comme tout membre de l'Église, se subordonner aux autorités de l'Église. Ça n'a rien d'original. La traduction que nous avons lue dit « par égard pour le Seigneur ». En fait, le texte original dit « comme au Seigneur ». À mon avis, le sens donné par la traduction du Semeur est un peu édulcoré, peut-être pour le rendre plus acceptable aux lecteurs et surtout aux lectrices de notre époque. « Comme au Seigneur » établit un parallèle entre la subordination de l'épouse à son mari et celle de l'Église à Christ, comme nous allons le voir. Versets 23 et 24. « Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église subordonne à Christ, qu'ainsi aussi la femme se subordonne en toutes circonstances à son mari. » Paul dit la même chose dans son Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 18. « Femmes, subordonnez-vous chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. » Aussi dans sa lettre à Tite, chapitre 2, verset 5, « Que les femmes plus âgées apprennent aux jeunes femmes à se subordonner à leur propre mari. » Et Paul n'est pas le seul à le dire. Pierre, dans sa première Épître, chapitre 3, verset 1, pareillement, vous, femmes, subordonnez-vous à vos propres maris. On voit que cette exhortation apostolique est largement attestée dans les Écritures. On ne peut donc pas la balayer d'un revers de main sans porter atteinte à la doctrine de l'inspiration. Alors Paul continue, versets 23-24. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se subordonne à Christ, qu'ainsi aussi la femme se subordonne en toutes circonstances à son mari. Paul a établi en détail ce principe de la subordination des épouses dans sa première épître aux Corinthiens, où il en donne les fondements scripturaires. C'est dans le chapitre 11, 1 Corinthiens 11, Paul vient de féliciter les Corinthiens du fait qu'ils maintiennent fidèlement les traditions qu'il leur a transmises, mais il ajoute au verset 3 « Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef, ou la tête, c'est le même mot hein, dans l'original, de tout homme. L'homme est le chef de la femme, le chef de Christ, c'est Dieu. » Au verset 8 « L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. » C'est une allusion au récit de la création en Genèse 2, la création de Ève en Genèse 2. Pardon. Au verset 11, toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, le texte original dit simplement dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, elle existe, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme. Et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. On voit que dans ce texte, Paul fonde le principe d'un ordre voulu par Dieu quant au fonctionnement du couple humain sur le récit de la création de Genèse 1 et 2, œuvre divine dont Dieu lui-même constate que tout ce qu'il avait créé était très bon. C'était bien sûr avant la chute racontée au chapitre suivant. Mais il ne faut pas oublier aussi Genèse 1, 27, qui fonde le statut intrinsèque de tout homme et de toute femme devant Dieu. Dieu créa les hommes, au sens de l'humanité, de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc, même dignité, de statut créationnel de l'homme et de la femme, tous deux à l'image de Dieu. Mais une différence fonctionnelle, la subordination de la femme à son mari. Cela veut dire que dans le couple, selon la volonté de Dieu, l'homme et la femme n'ont pas des fonctions superposables. Et l'apôtre demande clairement aux épouses de respecter cet ordre de fonctionnement voulu par Dieu. Alors là, on voit les maris bomber le torse et dire à leur femme, tu vois bien chérie, c'est écrit, c'est moi le chef. Mais ils vont vite déchanter d'une conclusion aussi simpliste avec les versets qui suivent. Verset 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Oui, les maris sont bien les chefs de leur couple, mais leur responsabilité, leur devoir est d'aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église, allant jusqu'au sacrifice, en tout cas au figuré, de leur vie. Alors là, il faut être bien clair. Seul Christ pouvait réaliser l'œuvre de l'expiation, donner sa vie pour son Église, c'est-à-dire pour tous ses rachetés. Et lui seul aussi pouvait faire ce qui est décrit dans les versets suivants, verset 26. « Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par le bain de l'eau, par une parole. » Là, je viens de traduire littéralement. Je pense que ce verset est une simple allusion au baptême d'eau. Le baptisé est, en image, lavé de ses péchés, purification que seul le Saint-Esprit a pu opérer dans son cœur, bien évidemment. Le baptême d'eau n'en est que la confession publique devant l'Église. Verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Tout cela, c'est ce que Christ fait pour son Église, dans le but de l'amener à la perfection durant le temps de ses fiançailles, qui est le temps actuel. Il est bien évidemment que ce n'est pas ce que font les maris vis-à-vis de leur femme. Il n'y a que Christ qui pouvait faire ça vis-à-vis de l'Église. En Apocalypse 19, verset 7, nous lisons « Voici bientôt, c'est-à-dire pas tout de suite, les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller de lin pur, éclatant, représentant les œuvres justes des saints. » Ça, c'est le temps de la purification, autrement dit, de la sanctification de son Église. Un temps de fiançailles. Et cela, en vue de son mariage, comme on dit eschatologique, ça veut dire dans un temps futur. Ça nous est raconté en Apocalypse 21, verset 9. Un ange invite Jean à contempler en esprit la mariée, l'épouse de l'agneau. Et qu'est-ce qu'il voit ? Non pas une femme, mais une ville où tout est beauté et pureté, la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, finalement, le but permanent de Dieu à travers toute l'Écriture, habiter au milieu de son peuple. Alors ce que nous venons de voir sous la plume de Paul, c'est ce que seul Christ peut faire, encore une fois, cette œuvre de purification de son Église. Mais si Christ agit ainsi, c'est parce qu'il aime sa fiancée, son Église. Et l'apôtre Paul demande à tous les maris chrétiens d'aimer chacun sa femme d'un amour qui prend exemple sur celui de Christ pour son Église, un amour qui n'hésite pas à se sacrifier pour elle. C'est la conclusion que Paul donne quant à l'amour qu'il attend des maris. Verset 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Alors là, on est un peu surpris. Après avoir atteint des sommets de beauté dans son exposé de la volonté de Dieu pour le couple humain, le comparant aux soins de Christ pour son Église, Paul semble retomber à un niveau beaucoup plus terre à terre. tout simplement, je pense, par lucidité. Il est bien conscient d'avoir placé la barre très haut pour les maris, en comparant l'amour qu'ils doivent à leur femme à celui de Christ pour l'Église. Alors il dit aux maris d'au moins aimer leur femme comme ils s'aiment eux-mêmes. Ça, c'est très réaliste quand on connaît l'égoïsme masculin inné des mecs. Mais il termine sa phrase par la mention « comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps ». Si Christ aime tant l'Église, c'est parce qu'elle est véritablement son corps. C'est la raison pour laquelle Paul cite au verset 31, Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un », littéralement, dans le texte original, « une seule chair ». Christ et son Église ne font plus qu'un. Le mari et sa femme ne font plus qu'un. Paul reconnaît au verset 32 que c'est un grand mystère. Un mystère, ce n'est pas une chose incompréhensible, mais une chose un temps cachée, mais finalement révélée. Ce mystère, c'est que l'amour du mari dans le couple humain est l'image de l'amour de Christ pour son Église. Retenons au passage que le mari et sa femme ne font qu'une seule chair. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Cette notion spirituelle a bien sûr d'énormes conséquences pratiques. Force est de reconnaître que même chez nombre de couples chrétiens, cette disposition divine n'est malheureusement pas parfaitement respectée. Le verset 33 constitue le résumé du principe que Paul vient d'instituer et auquel il entend que le nouveau peuple de Dieu se conforme. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Chacun reçoit donc son exhortation, son devoir particulier pour refléter la gloire de Dieu dans la vie de couple. J'ai souvent entendu lire ce passage lors des cérémonies de mariage chrétien. Je suppose que vous aussi. Immanquablement, il suscite un certain agacement chez beaucoup, et particulièrement chez les femmes qui assistent à la cérémonie. Pourquoi ? Parce que cet exposé de Paul va complètement à contre-courant de la pensée ambiante dominante dans notre monde, et que cette pensée influence inévitablement nos églises. Que les non-chrétiens estiment les chrétiens bornés de suivre de tels enseignements, c'est pas étonnant. La parité, non seulement de statut mais aussi de fonction, est le dogme qui régit le statut des hommes et des femmes, au moins dans nos sociétés occidentales actuelles. Que les chrétiens soient choqués par cet enseignement de Paul est quand même plus étonnant, pour plusieurs raisons. C'est nier l'inspiration plénière des Écritures, qui est l'un des principes fondamentaux de la foi, au moins dans le monde évangélique. Et c'est aussi se conformer à la pensée du monde plutôt qu'à celle de l'Écriture. Et enfin, c'est surtout ne pas comprendre la pertinence et la beauté de la pensée de Dieu pour le couple chrétien. C'est Dieu qui nous a créés et qui sait parfaitement ce qui convient le mieux pour un fonctionnement harmonieux du couple chrétien. Et si on regarde bien ce que dit Paul, quelle épouse ne se soumettrait pas joyeusement et amoureusement à un mari qui l'aime d'un amour comme celui que Paul vient de dépeindre? Alors je laisse la question en suspens pour que chacun y réponde pour soi-même. Enfin, chaque couple y réponde pour son couple.